de prison, Marie Capelle, extrait choisi. Introduction. En livrant à la publicité l'ouvrage qu'on va lire, j'acquitte un legs. Je remplis un devoir. Marie Capelle était ma petite nièce. Mon frère était son aïeul. Frappée par un arrêt terrible, elle venait le subir dans la ville que j'habitais. Orpheline de père et de mère, dépossédée de tout, séquestrée à de longues distances de ses rapports les plus intimes de famille et d'amitié, elle tombait subitement d'une position élevée de la vie dans la solitude affreuse d'une prison où elle devait attendre la mort. Je restais seule pour consoler, pour soutenir cette immense douleur. C'était une mission sainte à laquelle la Providence m'appelait. Je l'acceptais. La prisonnière, qui jusque-là m'était personnellement inconnue, arriva à Montpellier le 11 novembre 1841. Prévenue presque au même moment, j'accourus à elle. Dès ce moment, je ne vis plus une nièce. Je sentis que j'avais une seconde fille et mes enfants l'adoptèrent comme une sœur. Le gouvernement ne savait pas qu'elle avait ici des parents. Il fallut demander des instructions pour régler les conditions de nos visites et 15 jours s'écoulèrent avant que ces conditions fussent connues. Elles étaient sévères. L'infortunée ne pouvait nous voir qu'une fois par semaine, une heure seulement, et en présence d'une religieuse de la maison. Nous en souffrions tous. Elle en souffrait plus que nous. L'isolement dans une étroite cellule la désespérait, et la présence inquiète et soupçonneuse de ceux-là, seuls qui pouvaient l'approcher, lui était plus insupportable que son isolement. Bientôt, la fièvre, une fièvre intense, se déclara, et l'état de la malade devint alarmant. L'autorité se montra compatissante. Le préfet ne fut pas moins humain que le directeur. Les soins de la famille furent reconnus nécessaires et tous les jours, à toute heure, la porte de la prison s'ouvrit pour nous. Ce fut alors que ma fille, la seule fille que Dieu m'avait laissée, résolut, sans nous le dire, de ne plus se séparer de sa cousine et de partager sa captivité. Jeunesse, liberté, amitié de l'enfance, joie pure de la vie, projet d'avenir, elle abdiqua tout. Et ce ne fut pas chez elle, un vertige de l'imagination, un éblouissement du cœur. J'ai du bonheur à le dire. 11 années consécutives l'ont trouvée fidèle, autant que l'autorité l'a permis, à ce pieux dévouement dont elle ne comprenait pas qu'on pût s'étonner. Je ne dis pas cela pour honorer ma fille. Dieu connaît ma pensée, c'est lui qui l'inspire et il sait où elle va. Qu'on me permette maintenant de ne plus dire un mot, ni de ma fille, ni de sa mère, ni d'aucun de nous. Hors de la charité, c'est sottise et orgueil que de parler de soi. Les heures de prison sont la reproduction fidèle de toutes les souffrances, de toutes les douloureuses péripéties dont nous avons été les témoins. La prisonnière s'y montre telle qu'elle était, avec ses luttes et ses défaillances, avec sa résignation et sa foi. Et ce que sa modestie a voulu taire, il ne m'appartient pas de le publier. Constamment malade et presque toujours alitée, elle ne pouvait se livrer que de loin en loin à un travail sérieux. Sa correspondance, la méditation et l'étude remplissaient une grande partie de son temps. Les heures de prison étaient l'œuvre de ses larmes, œuvre inachevée que son état de souffrance la força d'interrompre vers la fin de 1847 et qu'elle se proposait de compléter par des articles de littérature et d'histoire dont elle avait rassemblé les matériaux. Elle devit y consacrer un long chapitre aux nobles amis dont les sympathies l'avaient entourée depuis son arrivée à Montpellier. C'était là, disait-elle, que son cœur se serait épanoui tout entier, Monsieur de Villard et Monsieur d'Osquet, qui s'étaient succédés comme directeurs de la prison, y auraient trouvé un profond souvenir, car elle parlait toujours avec effusion des marques d'intérêt qu'elle en avait reçues, et qu'ils avaient su si bien concilier avec leurs devoirs. Monsieur Chaput, leur prédécesseur, qui, dans les premiers temps, lui avait paru trop sévère, mais qui, plus tard, l'avait comblé de bonté, aurait eu sa page de reconnaissance et presque de réparation, de la part d'une femme dont le cœur s'exaltait au moindre bienfait. Dans les premiers mois de 1848, un dépérissement notable se manifesta dans la santé de la prisonnière. La fièvre ne la quittait plus. Son médecin, si bon, si dévoué, fit part de ses craintes au préfet. 4 professeurs de la faculté de médecine furent chargés de visiter la malade et de constater son état. Ils conclurent à la mise en liberté, comme seule chance de guérison. Ce rapport resta sans résultat. Cependant, le mal empirait rapidement. Après 15 à 16 mois d'attente, une nouvelle expertise eut lieu. Les conclusions furent les mêmes, et peut-être plus pressantes encore. Enfin, la translation de la prisonnière à la maison de santé de Saint-Rémy fut ordonnée. Elle y arriva le 22 février 1851, accompagnée de ma fille. Il n'était plus temps. Les bons et nobles offices du directeur de la maison, Monsieur de Chabran, les soins incessants du médecin, le concours charitable de l'aumônier et de la sœur hospitalière, la salubrité du climat, la beauté du lieu, tout fut impuissant. La maladie s'aggravait toujours. Averti de l'imminence du danger, je me rendis en toute hâte à Paris. J'étais porteur d'une supplique de ma nièce pour le prince président. J'en fis une autre que je signais. Je me plaçai sous le patronage d'un homme éminent dont je souffre de taire le nom, et 3 jours après, une lettre m'apprit que ma nièce allait être libre. Ma joie devait être plus courte que ma reconnaissance. Arrivé en 36 heures à Saint-Rémy, je pressai dans mes bras non plus une femme, mais un squelette vivant que la mort venait disputer à la liberté. Le 1er juin 1852, l'infortuné posait son pied libre dans ma demeure. J'avais mes 2 filles avec moi. Le 7 septembre, l'une mourait aux eaux du Sat et l'autre lui fermait les yeux. L'humble cimetière d'Ornolac a reçu les restes de la morte. Une croix renversée couvrira sa tombe. Qu'on ne me demande plus rien. Veut-on savoir, cependant, si j'ai cru cette femme coupable ? Je réponds. Retenue prisonnière, je lui avais donné pour compagne ma fille. Devenue libre, je lui aurais donné pour mari mon fils. Ma conviction est là. Collard, Montpellier, 17 juin 1853. Livre premier. Chapitre 1. Tulle, 24 octobre 1841. Que va-t-il encore m'arriver ? Ce matin, en m'habillant, j'ai senti une larme de Clémentine tomber sur mon épaule. Je n'avais jamais vu ma fidèle Clé pleurer sur elle, et toujours je l'ai surprise souffrir avant moi des douleurs qui me menaçaient. Que va-t-il encore m'arriver ? Je n'avais pas eu le courage d'interroger Clémentine quand Monsieur Lachaud est entré dans ma chambre. Il m'a salué tristement, s'est assis devant moi et m'a regardé longtemps de ce regard profond de l'homme qui veut graver un souvenir suprême dans son cœur. Ce regard m'a fait mal. Une inexprimable angoisse m'a saisie. J'aurais voulu parler et je n'osais. J'étais impatiente d'apprendre ce que je tremblais de savoir. Je sentais que ma voix s'éteindrait dans mes sanglots. J'ai pris alors un bouquet de roses sauvages que la fille de la concierge m'avait apporté le matin et je l'ai lentement dépouillé, fleurs, feuilles, tiges. Monsieur Lachaud a compris ma pensée. Il a détourné la tête. Au même instant, le gardien chef est venu demander Clémentine et j'ai entendu murmurer ces mots terribles. Voiture cellulaire. heureux les morts. Chapitre 2. On ne me dit rien, et je n'ai la force de rien demander. On va, on vient, on cause bas autour de moi. On comprend qu'il n'est plus possible de me tromper, et cependant, chacun s'efforce de mettre un faux sourire sur ses lèvres. Pauvres amis, demain, s'il faut que je vous quitte, vous me pleurerez comme on pleure une morte, et puis... Chapitre 3. Clémentine est au désespoir. Elle me voit déjà seule, évanouie, sans secours, dans une de ces cages de fer du chariot cellulaire, cercueil ambulant, où la loi jette ses sorts pour les envoyer perdre dans la tombe commune d'une prison. La mort, qui ne m'a jamais effrayée, m'effraie cette fois. Si je succombe dans l'horrible trajet, il faudra donc qu'un homme inconnu, grossier, indiscret peut-être, prenne la place de l'homme de Dieu et du saint entourage des mourants. Ce sera la main d'un garde chiourme qui se posera sur ma main pour y sentir les derniers battements de ma vie. Ce sera son regard qui rencontrera mon dernier regard. Ce sera son oreille qui recevra mon dernier cri au monde. Et le monde ne m'entendra pas. Et si je survis, oh mon Dieu, dans quel abîme irais-je tomber? Je n'ai plus de patrie, je n'ai plus de foyer, mon nom n'est plus un titre, ma vie n'est plus un droit. Pitié, mon Dieu, pitié, laissez-moi mourir ici, parmi les miens. Chapitre 4. Mon tuteur est venu me voir avec le docteur Ventejoux. Celui-ci est sorti sur le champ, emmené par Monsieur Lachaud. Je crois qu'ils sont allés à la préfecture. La figure sérieuse de Monsieur Lacombe est plus sérieuse encore que de coutume. Pour se dispenser de parler, il a pris je ne sais quel petit objet sur ma table de travail et il l'a examiné avec une attention fiévreuse. Gardez-le, lui ai-je dit en posant doucement ma main sur son bras. « Gardez-le en souvenir de votre pauvre pupille. Vous êtes de mes amis celui que Dieu m'a donné le plus tard. Promettez-moi d'être celui qui m'aimerait le plus longtemps. » Ce n'est pas un reproche, au moins. Oh non, c'est une prière. Un adieu. Il y a dans l'amitié que m'a si fidèlement vouée M. Lacombe une suite de particularités qui me la font bénir. À titre d'amitié providentielle. Monsieur Lacombe, notaire à Tulle, est un des hommes les plus estimés du pays. Il était, depuis de longues années, en relation d'affaires avec la famille Lafarge, et même en relation de politesse intime avec quelques-uns de ses membres. À l'époque de mon procès, son étude se trouvait ainsi un des centres de réunion de mes plus cruels adversaires. Il assista donc à toutes les péripéties du drame terrible qui se nouait à l'ombre contre moi, pour aller se dénouer contre moi encore au grand jour de la cour d'assises. D'abord gagné à la cause de la calomnie et me croyant coupable, M. Lacombe usait de son influence pour m'aliéner l'opinion publique et l'intéresser aux espérances haineuses de mes ennemis. S'il ne cachait pas ses répulsions contre l'accusé, il cachait encore moins ses sympathies pour la famille accusatrice. Mais il arriva un jour où l'honnête homme se trouva de trop dans ces mystérieuses collusions de colère intéressée et de rancune vénale, où l'homme de cœur s'indigna des tortures infligées à Emma Pontier, la pieuse enfant qui osait me défendre de toute sa conscience et m'aimer de tous ses souvenirs, où l'homme de grand sens se révolta des cris d'une mère et d'une sœur, plus soucieuse d'escompter la mort que de la pleurer, plus jalouse d'hériter d'un crime que de sauver leur nom d'un déshonneur. Il arriva un jour où les pensées de M. Lacombe se troublèrent, où voulant examiner, approfondir les faits, il fut conquis à la cause de mon innocence et, d'ami des oppresseurs, devint l'ami de l'opprimé. Revenir d'une prévention secrète est chose difficile et rare, mais abjurer hautement, une prévention hautement avouée, défendre ouvertement ce qu'on avait ouvertement attaqué, oser respecter le lendemain ce qu'on avait flétri la veille, c'est d'une conscience ferme, d'un esprit droit, c'est surtout d'un grand cœur. Oh, mon courageux ami, oh, mon cher tuteur, je vais partir pour ne plus vous revoir peut-être. Gardez mon souvenir, je vous le lègue comme le souvenir d'une bonne action. Chapitre 5. Monsieur Lachaud sort de chez le préfet. Je ne serai pas enfermé dans une voiture cellulaire. Le ministre a pris en considération le rapport des docteurs Ségéral et Ventejoux qui, n'ayant pas de cessé de veiller un seul jour sur ma pauvre santé, n'ont pas hésité à certifier que ce mode de transfert pourrait me tuer. Pendant mon procès, ce n'est qu'en me saignant chaque soir que ces savants amis m'ont pu faire supporter le long martyre des débats. Que serais-je devenu, malade, abandonné, dans un de ces étroits cabanons où l'air et le jour manquent, où le captif n'a, pour endormir ses douleurs, qu'un bruit de roues incessants et que d'incessantes ténèbres? L'affectueuse sollicitude de mes bons docteurs ne m'a pas seulement racheté des chances d'une mort terrible, elle m'a sauvé, à mon insu, du néant de la folie et de la fièvre du désespoir. La vie se plaît souvent à galvaniser des cadavres. Peut-être se serait-elle acharnée à moi, mais ma pensée, mais mon cœur se serait abîmé dans les larmes. Chers amis, je veux sentir une dernière fois ma main pressée dans leurs mains. Je veux que leur présence résigne l'heure des adieux, comme elle a résigné ses sœurs, mes pauvres heures souffrantes et désolées. Chaque matin, ils ne m'entendront plus leur dire « Au revoir ». Se souviendront-ils du moins qu'en partant mon cœur leur a dit « À toujours ». Chapitre 6. Je partirai demain soir dans une chaise de poste sous l'escorte de deux gendarmes. Clémentine m'accompagnera. Nous voyagerons nuit et jour, et s'il faut nous reposer quelques instants, la consigne ordonne de choisir des relais isolés. J'ai envoyé chez Monsieur de Tourdonnet. Des affaires l'ont retenu à la campagne. Il ne sait rien des ordres qui viennent d'arriver. Ne pourrais-je pas revoir une dernière fois ce premier ami de mon infortune? Ne pourrais-je pas lui dire adieu avant qu'on ait muré sur moi la porte de ma prison? Son absence ajoute un deuil à tous mes deuils. J'aurais voulu poser un baiser, une larme sur le front de ses beaux petits-enfants. J'aurais voulu saluer d'un dernier merci la noble amitié et le pieux dévouement de Madame de Tourdonnet. Un express est parti immédiatement pour le château de Saint-Martin. Arrivera-t-il à temps ? Chapitre 7. Quelle journée aujourd'hui, quelle journée demain, quelle vie à subir, oh mon Dieu, jusqu'à l'heure où il vous plaira de me rappeler à vous. Je suis comme une trépassée qui assisterait, pauvre âme en peine, aux apprêts de son convoi. Depuis ce matin, j'écoute, je réponds, je tends la main machinalement, mon front est brûlant, mais je ne pense pas. Mon cœur bat, mais dans le vide. Mes sanglots m'étouffent, mais je ne pleure pas. Je ne serais plus sûre de vivre si je n'étais certaine de souffrir. Chapitre 8. J'ai eu plus de courage ce soir. Mes amis partis, j'ai écrit quelques notes et, laissant ma bonne clé s'occuper des préparatifs du lendemain, je me suis mise à glaner les chers souvenirs épars de ma pauvre cellule. Ma gerbe est faite et mon trésor au complet, j'ai attaché un nom sur chacun des objets familiers qui paraient mes petites étagères de bois blanc. Et je les ai légués aux fidèles serviteurs qui, chaque jour, venaient m'aider à soulever le poids des heures captives. Vous n'avez pas été oubliée, bonne Miss Schmidt, fille et sœur de brave, qui portiez si fièrement sur la terre d'exil votre doux titre d'enfant d'airain. Lorsque Lord Fitzgerald, errant, proscrit, manquait d'un toit ami pour abriter sa tête, votre mère lui offrit le sien, et, proscrite à son tour, elle sut souffrir sans faiblesse et se sacrifier sans murmure. Son courage fut héroïque, son dévouement sublime, et si l'étranger moissonne sur les champs où moissonnaient vos pères, les vertus maternelles seront votre héritage. Vous resterez aimée, là où elle reste bénie. J'ai longtemps hésité sur le choix d'un souvenir à laisser au brave et loyal commandant C. Je voulais qu'une âme palpitât sous la lettre morte de mon adieu. J'ai coupé, pour la lui envoyer, une boucle de mes cheveux, blanchie en une heure, le jour du rapport de Monsieur Orfila. Il sait que le remords ne les a pas déteints. Il les gardera pieusement comme une chère relique de deuil et de regret, d'orage et de néant. Le commandant est un de ces hommes qui ne comprennent pas même l'idiome de la calomnie, tant leur noble nature a le sentiment du juste et la conscience du vrai. Rudes en apparence, inhabiles aux fausses délicatesses du sentiment rêvé ou parlé, ils sont sublimes de bonté pour le malheur. S'ils ne pleurent pas avec l'opprimé, ils le consolent par leur estime et ils le vengent en l'aimant. Chapitre 9. Ce matin, vers 3 heures, la fille du concierge du palais est venue m'éveiller. Selon son habitude, elle s'est mise à genoux près de mon lit et, sans parler, elle a versé son plein tablier de fleurs sur mon couvre-pied. « Je vous attendais, merci ma bonne Mariette », ai-je dit à l'excellente fille en lui passant autour du cou un petit bijou que je désirais lui laisser. « Vous resterez ici jusqu'au moment du départ, n'est-ce pas ?»« Rester ? Impossible, ma chère dame !» s'est écriée Mariette en se relevant tout en larmes. « Je suis venue de bonne heure pour m'en retourner vite, après vous avoir fait mes adieux. »« Ne me quittez pas encore, Mariette. Vous aiderez Clémentine dans ses apprêts et vous m'habillerez une dernière fois. »« Je ne peux pas rester. » « Mais voyez, j'en suis contristée, et Marie !»« Votre père a donc besoin de vous ?»« Oh, ce n'est pas pour ça !»« Alors, pourquoi me refuser ?»« Je vais vous le dire, madame. Devant le monde, je n'oserais pas vous embrasser, et le bonheur des autres me rendrait jalouse. »«
Si vous n'osez pas m'embrasser, pauvre Mariette, j'oserai pour deux. »
« Non, non, ma chère dame, et c'est parce que j'attendais cela de vous que j'ai eu le courage de vous désobliger en quelque chose. Votre main, vos deux mains dans la mienne, maintenant si ce n'est pas trop prétendre, souvenez-vous de moi là-bas, madame, souvenez-vous de moi, et priez pour nous. »
« Je prierai pour lui en pensant à vous, pauvre mère. »
« Le ciel vous le rende, mais laissez-moi suivre mon idée. » « Laissez-moi sortir. Le monde est le monde. Si vous me traitiez avec bonté devant lui, il blâmerait votre pitié. Il ne vous pardonnerait pas d'oublier quand il se souvient. Adieu, madame. Adieu !»
Pauvre Mariette. Sa faute fut le crime d'un autre. Et depuis 10 ans, elle l'expie sans plainte et sans révolte. Depuis 10 ans, elle vend toutes les sueurs de son front, elle verse toutes les larmes de son cœur pour se conserver le droit de gagner le pain de son enfant, pour se ménager la joie de prier au chevet de son berceau. C'était la chambre de l'excellente fille que j'occupais pendant les débats de mon procès. C'est sur son lit que j'étais étendue sans connaissance lorsqu'on vint me lire l'arrêt de ma condamnation. C'est à l'ombre des rideaux de sa petite alcôve qu'elle se glissa furtivement un soir pour me présenter son fils. Rien de touchant comme la tendresse humble et craintive de ces deux êtres malheureux. Le pauvre est tout tremblant de sentir trembler sa jeune mère, se cachait sous sa mante et nouait ses deux bras à son cou. Mariette, agitée et confuse, tantôt rassurait l'enfant par un sourire, tantôt me regardait en pleurant. La douleur voilait sur son visage le rayonnement de l'amour maternel, et quand sa tête brune se penchait sur la tête blonde du pauvre petit qui l'appelait « ma sœur », on eût dit deux oiselets éclos dans un même nid, deux fleurs épanouies sur une même tige, à un intervalle de quelques soleils. Pauvre Mariette. Chapitre 10. Depuis l'heure de mon lever jusqu'à celle du départ, j'ai vu successivement tous mes bons, tous mes chers amis de Tulle. Le docteur Ventejoux m'a tâté 20 fois le pouls et 20 fois m'a serré la main en pleurant. Madame Maurice m'a apporté son fils, bel enfant de 2 ans, qui venait chaque jour dormir ou jouer au pied de mon lit. En me voyant pleurer, le pauvre chéri a couvert mes yeux de ses petites mains pour empêcher mes larmes de couler, et n'y parvenant pas, il s'est mis à crier en se cramponnant des 2 bras à mon cou. Oh, que j'ai souffert en quelques heures. C'est tout ce que je sais de ces moments cruels, et quand j'y reviens par la pensée, mon cœur bat si douloureusement et si vite que je ne peux pas, que je ne veux pas me souvenir. À 4 heures, le coup de fouet du postillon a sonné le glas des adieux. Je me suis levée. J'ai regardé une dernière fois ma chambre et, m'approchant de la fenêtre, j'ai appuyé mon front brûlant sur un nom gravé dans la pierre vive. Ce nom, presque frère du mien, est celui d'un paysan des environs de Saint-Flour qui, 60 ans auparavant, était sorti de cette même chambre pour monter sur l'échafaud. Eut expiation d'un crime qu'il n'avait pas commis. Son beau-père était le coupable, et qu'on l'a pris sur la terre, la victime était au ciel. Monsieur Duval m'attendait à la porte. Je lui ai demandé un crayon, et j'ai mis mon nom sous celui du pauvre martyr. « Pourquoi signer votre passage ici, madame ?» m'a dit l'excellent homme, d'un ton de reproche. « Craignez-vous qu'on ne vous oublie ?»« Non, mon bon Duval, non !» Mais si un autre prisonnier, plus malheureux que coupable, vient habiter cette cellule après moi, sa solitude s'animera des souvenirs que je lui lègue, et vous lui raconterez mon histoire, comme vous m'avez raconté celle de l'infortuné Capel. Je le ferai pour vous obéir, madame. Mais Dieu veuille que je n'en voie plus souffrir qui vous ressemble. Trop ému pour répondre, j'ai mis une main dans celle du brave Duval. Et j'ai tendu l'autre au concierge, à sa femme et à ses enfants accourus pour me dire adieu. Comme je montais en voiture, Clémentine m'a montré les détenus pour dette qui agitaient leurs mouchoirs aux grilles de la prison en me souhaitant bon voyage et longue vie. Longue vie. Pauvres gens, ils ne comprennent pas ce qu'il y a de cruel dans un pareil souhait formé à pareil moment. Chapitre 11. La voiture a traversé d'abord le quartier haut de la ville, habité par les ouvriers de la manufacture d'armes. La plupart étaient sur le seuil de leurs ateliers. Ils attendaient mon passage pour m'encourager d'un mot énergique ou naïf, comme ils avaient coutume de le faire chaque fois que j'allais subir une nouvelle épreuve devant mes juges. Arrivé sur la promenade qui longe la Corrèze, j'y ai trouvé échelonnés tous ceux qui, sans me connaître, aimaient mon malheur et m'entouraient à Tulle de leur sympathie. Hors d'état de rendre à chacun d'entre eux son salut et son souhait, j'ai relevé mon voile pour qu'ils vissent au moins que je pleurais en les quittant. Les dernières maisons du faubourg dépassées, le postillon a mis ses chevaux au pas pour gravir la montée. Je suis descendue et j'ai pu encore une fois m'appuyer librement sur le bras de quelques-uns de mes plus chers amis qui étaient venus m'attendre au pied de la côte comme au rendez-vous des adieux. Restés un peu en arrière de la voiture et recueillis dans notre douleur, nous marchions lentement, sans parler, comprenant que chacun de nos pas avançait l'heure de la séparation et cependant forcés de marcher toujours. Nous n'osions nous regarder, de peur qu'une larme échappée à l'un de nous ne fît arriver les larmes à tous nos yeux. Nous allions, nous tendant la main et nous la serrant en silence, nous reposant un moment, tantôt sur le bord d'un fossé, tantôt sur la saillie d'une roche, pour admirer un moment ensemble ces sites regrettés qu'ensemble, hélas, nous ne devions plus revoir. Tout à coup, M. Ventejoux s'est arrêté. C'était, disait-il, pour donner à Clémentine ses dernières instructions sur les éventualités du voyage. Nous avons continué à marcher sans lui, mais à un détour du chemin, je l'ai aperçu qui agitait son mouchoir. « Faut-il l'attendre ? » ai-je dit au commandant. « Non. Poursuivons vite, au contraire. Il veut vous épargner son adieu. » Monsieur C. disait vrai. La voix du bon docteur nous a appelés encore. Je ne l'ai plus vu revenir. Bientôt, un second ami a été forcé de remonter en voiture. Il était anéanti et ne pouvait plus marcher. « Vous le consolerez, » ai-je dit, à celui qui avait le courage de rester. « Non. Pourquoi ? L'absence qui fait peur à l'oubli pour lendemain. » Cette réponse m'a fait mal, je n'y crois pas, mais je sens qu'elle ne s'effacera plus de mon souvenir. Chapitre 12. Je ne les vois plus. Encore un signe de croix sur cette dernière consolation de mon cœur et que ma destinée s'accomplisse. Maintenant, je dis, il y a une heure, ils étaient là. Demain, je dirai, hier, je les voyais, ils me parlaient, nous pleurions ensemble. Bientôt des semaines, des mois, des années sépareront les anniversaires de nos souvenirs. Plus tard, je chercherai mes amis sans les trouver peut-être, et puis ils me trouveront sans me chercher, comme on se heurte à travers la vie à la foule des indifférents. Nos sentiers ne se croiseront un instant que pour se diriger, opposés l'un à l'autre vers des termes divers. Nos yeux se reconnaîtront à peine, nos cœurs ne se reconnaîtront plus. Pardon, oh vous que j'aime! Mais s'il faut qu'un jour vous me jetiez à votre oubli, comme on jette sur les morts la pierre noire des tombeaux, si mon cœur se serre à vos noms, si à vos souvenirs un frisson court dans mes veines, amis, ne craignez pas, je ne vous rendrai pas oubli contre oubli. Livre 15. Mes yeux ne voient plus ce monde, que depuis longtemps déjà mes mains n'étreignent plus, à ma porte des verrous, à ma fenêtre des planches, à droite, à gauche, en face, à mes pieds, rien que moi. Heureusement, au-dessus de ma tête, j'ai le ciel et Dieu. Le mouvement de la rue m'était une distraction quotidienne. Dans l'état de nonchalance maladive où je me traînais, l'aspect des objets extérieurs, les paradis en plein vent du monde, les panoramas de toute bigarrure que j'y découvrais, reposaient mes douleurs, comme autrefois, enfant, m'endormaient les contes de ma bonne. Je souriais à ces visions lointaines comme le dormeur sourit à ses rêves. Je tuais ainsi quelques heures de mon supplice. Je faisais mal, le temps nous est prêté et nous en devons compte. C'est la sève de ce talent de l'Évangile qu'il ne nous est pas permis d'enfuir. C'est la rosée de ce champ dont la moisson nous sera demandée quand finira cette saison morte qu'on appelle la vie. S'il faut que je vive, il faut aussi que mes efforts labourent, que mes sueurs fertilisent ce talent qui m'a été confié et qui se délaye dans mes larmes. Le doigt de Dieu a donné l'impulsion à mon cœur. je ne précipiterai ni ne retiendrai un seul de ces battements. La balance de Dieu a mesuré le temps à mon être. Je ne perdrai plus un seul de mes jours.